carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuk.
Rubens, Van Dyck, Jordaens et les autres. Peinture baroque flamande au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique. Le musée Marmottan Monet, appartenant à l'Académie des Beaux-Arts, nous gratifie une fois de plus d'une superbe exposition. Elle porte sur les peintres flamands du XVIIe siècle et présente des œuvres sélectionnées parmi les collections des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. On peut y voir et admirer une quarantaine de toiles des anciens Pays-Bas méridionaux du siècle d'or. Tous les grands genres y sont représentés, de la peinture d'histoire à la nature morte en passant par le portrait, la scène de genre et le paysage. Un régal évidemment pour les amateurs de peinture flamande. Canal Académie a le grand plaisir de rencontrer la commissaire de cette exposition, Madame Sabine Van Sprang, en visite à Paris. Madame Van Sprang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la conservatrice de la peinture flamande des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Et cette exposition inaugure un nouveau partenariat entre votre musée de Bruxelles et le musée Marmottan Monet parisien. Pouvez-vous nous raconter un peu l'origine de ces accords et leur principal intérêt?
Alors, ces accords avaient été conclus entre Michel Draguet et Jacques Tadei, le très regretté directeur du musée Marmottan Monet. Et ils portaient au départ sur une exposition qui aura toujours lieu d'ailleurs en 2014-2015, qui s'appelle « Monet, le japonisme ». Une exposition qui viendra donc à Bruxelles. Et de là est née très rapidement l'idée d'un échange de collections, puisque nous ne conservons pas de Monet. Donc, bien entendu, cette exposition « Monet, le japonisme » permettra au public bruxellois de découvrir les toiles du musée Marmottan Monet. Et donc, très naturellement, est venue une idée, de faire la réciproque, donc de proposer une exposition qui ferait découvrir au public parisien une infime partie, mais une partie quand même, de nos collections à nous. Or, il s'avère que, pour l'instant, malheureusement, une aile est en travaux chez nous, ce qui fait que, pour ce qui concerne l'art ancien, seule une partie de la collection est exposée au public. Et dès lors, il nous paraissait intéressant de montrer le 17e, enfin une partie du 17e qui, avant, bien entendu, était également montrée au public bruxellois, mais qui, aujourd'hui, en partie, s'est retrouvée dans les réserves. Donc, l'exposition qui est aujourd'hui au musée Marmottan Monet comprend des œuvres qui, avant encore une fois, étaient toutes exposées, mais qui aujourd'hui étaient pour la moitié exposées et pour la moitié en réserve.
Donc ça tombait au bon moment.
Donc ça tombait au bon moment, absolument, parce que du coup aussi, à Bruxelles, nous avons exposé d'autres toiles qui d'habitude sont en réserve également. Donc le public bruxellois découvre autre chose et le public parisien découvre nos toiles du 17e. Donc ça tombait effectivement très bien.
Oui. Et vous avez une riche collection. Pouvez-vous nous raconter un petit peu comment ces collections se sont constituées par rapport à d'autres musées européens qu'on connaît?
Eh bien oui, justement, la particularité du musée de Bruxelles, c'est que nous n'avons pas hérité d'une collection princière comme le Louvre ou comme le Kunsthistorisches Museum de Vienne. Mais nous sommes en fait, je dirais, le produit de l'arrêté Chaptal. Donc lorsque nous étions sous autorité française, nous avons pu bénéficier de cet arrêté qui a créé les musées de province en France. Et donc notre musée, la première appellation de notre musée, c'était le musée du département de la Dyle. Et ce musée exposait à l'époque les œuvres qui avaient été réunies par les commissaires de la République. Vous savez, les commissaires de la République avaient eu pour tâche de sortir les œuvres des églises et corporations. Toutes ces œuvres avaient été réunies en un endroit. Les plus beaux d'entre elles avaient été amenées à Paris, mais il restait de très belles œuvres. Et voilà, c'est comme ça que notre musée a démarré. Et puis nous avons pu récupérer quand même certaines toiles importantes de Rubens, notamment, qui avaient été exportées à Paris en quelque sorte et qui donc nous sont revenues. Et c'est comme ça que petit à petit, la collection est née.
Et les Habsbourg n'ont pas laissé beaucoup de...
Non, mais ils avaient acheté leurs œuvres, donc ils avaient parfaitement droit de les emporter, je veux dire. Ce qui s'est passé, tant d'ailleurs à Vienne qu'à Madrid aussi, hein, puisque bien entendu... Beaucoup de, par exemple, les Bosch avaient été achetés aux Pays-Bas, mais ont été emportés très naturellement, d'ailleurs, par Philippe II, à Madrid et à l'Escorial.
Oui. D'ailleurs, comment peut-on vraiment distinguer l'art flamand et l'art hollandais?
Alors ça, c'est une vaste question. C'est pas une question toujours simple. Enfin, je veux dire, la réponse n'est pas toujours simple. Il faut savoir, par exemple, que le premier biographe de la peinture flamande, qui s'appelait Karl van Mander, qui a écrit son Schilderbuch, c'est-à-dire son livre des peintres en 1604, considérait encore et toujours que la peinture flamande et la peinture hollandaise formaient une et même école en quelque sorte, alors que nous, historiens d'art, nous distinguons déjà pour la peinture du tout début du XVIIe siècle la peinture flamande et la peinture hollandaise. Donc il faut savoir qu'effectivement les Pays-Bas ont formé en fait la Hollande telle que nous la connaissons plus ou moins aujourd'hui. Hein, évidemment il y a eu encore, le territoire a encore un peu changé, mais enfin grosso modo disons, n'a été reconnu qu'en 1648, alors qu'au fond, dès 1585 en quelque sorte, les jeux étaient faits, puisqu'au XVIe siècle vous avez eu les guerres de religion, n'est-ce pas ? Vous avez eu la formation d'un certain nombre de villes-républiques, comme on les appelait à l'époque calvinistes, comme Bruxelles, Anvers. Et puis petit à petit, Alexandre Farnèse a reconquis, en quelque sorte, pour la couronne espagnole, le territoire. Donc il a réussi à aller jusqu'à Anvers. Il n'a pas réussi à aller au-delà.
Au sud, donc, oui.
Voilà. Mmh. Et donc au-delà, il y avait les Nassau qui tenaient tête au roi d'Espagne. Et donc finalement, petit à petit, à partir de 1585, encore une fois, le Nord continuera à résister, si j'ose dire. Et donc, même si l'Espagne espérait encore pouvoir récupérer les Pays-Bas du Nord, de ce qui allait devenir la Hollande, encore une fois, les jeux étaient faits. Tant et si bien d'ailleurs qu'en 1609, déjà, de 1609 à 1621, il y a eu une trêve, la fameuse trêve de 12 ans du début du XVIIe siècle, qui a mis, pour un temps, la fin entre la guerre du Nord et du Sud.
Les conflits étaient un peu apaisés.
Qui étaient un peu apaisés. Oui. Et puis après, ça a repris jusqu'en 1648, le fameux traité de Münster, qui reconnaît définitivement l'indépendance des Pays-Bas septentrionaux, qui donc sont l'actuelle Hollande, plus ou moins, parce qu'en fait, la Hollande est une province, hein, mais ce que nous appelons communément la Hollande.
Oui. Oui, avec les capitales Amsterdam, enfin absolument. La capitale Amsterdam, voilà. Et les grandes villes, Leiden, je crois.
Leiden, Utrecht, voilà, absolument, Groningen.
Oui, enfin. C'était donc les provinces unies, et exactement. Le sud était catholique
et habsbourgeois. Mais il faut savoir qu'à la mort de Philippe II, à la veille de sa mort, Philippe II avait donné en dot à sa fille Isabelle les Pays-Bas, donc à sa fille Isabelle et à son gendre Albert, qui était en fait son cousin. Donc c'était deux Habsbourg, Albert était un Habsbourg autrichien, Isabelle était une Habsbourg espagnole. Donc ce couple va régner sur les Pays-Bas en quelque sorte. Ils ne sont pas reconnus comme monarques, mais ils sont reconnus comme souverains. Mais au fond, là aussi, en quelque sorte, les jeux étaient faits dans la mesure où il avait été stipulé que si Albert et Isabelle n'avaient pas d'enfants, les Pays-Bas retourneraient à la couronne d'Espagne, ce qui s'est avéré. En fait. Et puis bon, elle avait déjà un certain âge, donc on se doutait bien. Enfin, certains historiens, ça reste aussi assez spéculatif, mais certains historiens pensent qu'au fond, Philippe II savait très bien que sa fille n'aurait pas d'enfant et que voilà, il a fait ça pour apaiser les Pays-Bas, mais sachant au fond que...
Mais c'était sous leur règne que les arts ont pu se développer, parce que c'était quand même une période très...
Absolument, entre autres grâce à la trêve de 12 ans, qui quand même permet effectivement aux Pays-Bas de souffler un peu, permet à l'économie, en tout cas en partie, de se redresser, même si Amsterdam, petit à petit, évidemment, construit, j'ai envie de dire, son futur. En plus, il ne faut pas oublier que l'embouchure de l'Escaut était bloquée par les Pays-Bas septentrionaux, donc par les Hollandais. Et là aussi, bien sûr, c'est un frein à l'économie. Et c'est d'ailleurs au XVIIe aussi, petit à petit, que les Pays-Bas décident véritablement de se concentrer sur les produits de luxe, dont font bien entendu partie les peintures, qui sont exportés jusqu'au Mexique. Hein.
Oui,
donc
oui.
Voilà, donc c'est une économie qui se concentre véritablement sur les produits de luxe, parce que les Pays-Bas étaient extrêmement réputés pour la peinture, pour les tapisseries également.
Oui, déjà depuis le XVIe siècle.
Déjà depuis le XVIe siècle,
absolument. Un marché de l'art extrêmement intensif.
Absolument,
oui, oui,
mais
oui.
Au XVIe, disons qu'il c'était un marché intensif dans le sens large du terme. Au XVIIe, il le sera encore, mais il sera plus concentré sur les produits de luxe. Donc c'est véritablement une politique... assumé, volontariste en quelque sorte.
Dans son avant-propos du catalogue de l'exposition, Michel Draguet, que vous avez mentionné tout à l'heure, le directeur des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, vous laisse le soin, madame, de nous narrer l'histoire de ce baroque flamand. Alors à notre tour, nous vous invitons, madame von Sprang, de nous introduire dans cet univers vraiment fascinant de la scène artistique en Flandre au XVIIe siècle. Donc de nous faire une petite introduction dans cet art baroque.
Bon, alors évidemment, très certainement, en ce qui concerne la peinture d'histoire, hein, donc la peinture d'histoire, c'est à la fois la peinture religieuse, la peinture mythologique, la peinture allégorique. La figure dominante, c'est la figure de Rubens. Il n'y a pas de doute sur la question. Rubens est rappelé d'Italie, il était en Italie jusque fin 1608, donc il est rappelé aux Pays-Bas. Il s'installe à Anvers, tout en étant d'ailleurs peintre de cour, ce qui est assez exceptionnel, puisque la cour était établie à Bruxelles. Donc d'habitude, un peintre de cour était prié, bien sûr, de s'installer, sinon à la cour, en tout cas dans ses environs immédiats. Mais Rubens bénéficiait déjà à l'époque d'une certaine réputation, tant et si bien qu'il a pu continuer à vivre à Anvers. Et il va véritablement opérer une fusion tout à fait extraordinaire entre, je dirais, le savoir-faire de la peinture flamande, de cette peinture à l'huile absolument fabuleuse, de ce sens du réalisme et du détail surtout, qui a fait la réputation...
Et dans des couleurs dans des éclatantes, rutilantes,
absolument,
extraordinaires, et les formes...
Auxquelles contribue précisément si bien la peinture à l'huile sur panneau, parce qu'au départ, Rubens va peindre énormément sur panneau, et puis petit à petit, il va aussi peindre sur toile. C'est véritablement, je dirais,
la grande figure
qui va marquer de son sceau la peinture, encore une fois, d'histoire flamande. À côté de ça, comme vous l'avez si bien fait remarquer tout à l'heure, le XVIe siècle était déjà extrêmement riche, Anvers en particulier menait déjà, je dirais, la danse en quelque sorte, et il y avait déjà un nombre d'artistes extrêmement actifs qui très vite se sont spécialisés aussi. Donc la spécialisation, elle naît au XVIe, elle continue au XVIIe. Donc vous avez des peintres qui se spécialisent dans le paysage, dans la nature morte, dans ce que plus tard on va appeler la peinture de genre. Bruegel, bien entendu, au XVIe sera une des figures marquantes, certainement du paysage et de la peinture de genre. Et ces genres-là, donc nature morte, paysage, scènes de genre, vont se développer davantage encore au XVIIe, certainement aussi la nature morte qui en est à ses balbutiements au XVIe siècle. Et donc là, c'est une autre des particularités de la peinture flamande, c'est cette spécialisation, parce que c'était aussi un art relativement commercial, malgré tout. Donc c'était un art qui s'exportait, c'était un art, même à Paris, à Saint-Germain, voilà, on recherchait les peintures flamandes, notamment les peintures de genre étaient extrêmement recherchées. Vous avez un article extrêmement intéressant de deux professeurs de la Duke University des États-Unis, donc Hans van Michoot et Neil de Marquy, qui, donc dans le catalogue de l'exposition que nous proposons à Marmottan-Monet, voilà, s'attache à rendre ce succès de la peinture flamande en France jusqu'au XVIIIe.
Donc, tous ces genres qui sont représentés, pourquoi ils sont baroques?
Oui, alors effectivement, pourquoi cette appellation baroque? Toutes ces appellations sont souvent quand même des appellations qui sont venues définir un art a posteriori. Mais je crois que les œuvres qui sont réunies dans l'exposition à Marmottan-Monet ont quand même ceci en commun, que ce sont des œuvres, certainement en ce qui concerne le paysage et la nature morte, d'apparat. Ce sont des œuvres opulentes, ce sont des œuvres, je dirais, grandioses en quelque sorte, au sens vrai du terme. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable volonté d'en imposer, en quelque sorte, de faire des œuvres d'apparat.
Mais ça tient à la contre-réforme ou pas forcément?
Pour la peinture religieuse, bien entendu.
Je crois que pour
la peinture religieuse, bien entendu, absolument. Et donc pour Van Dyck aussi, puisque Van Dyck a fait essentiellement des portraits, c'est vrai, mais a fait quand même aussi, à côté de ça... a réalisé plusieurs tableaux religieux, tout comme Jordaens d'ailleurs. On pense toujours à Jordaens comme peintre de genre, et effectivement au musée Marmottan-Monet, on a un roi bois qui adhère tout à fait à ce type de peinture.
Spectaculaire.
Mais Jordaens était avant tout un peintre d'histoire, un peintre donc à la fois de peinture religieuse et mythologique. D'ailleurs, j'en profite pour signaler qu'à Bruxelles, nous avons pour l'instant une exposition sur Jordaens et l'Antiquité qui éclaire précisément cet aspect donc de l'activité de Jordaens. Il était portraitiste aussi, nous avons un très beau portrait dans l'exposition. Évidemment, je dirais que l'un entraîne l'autre, bien entendu. À partir du moment où vous choisissez résolument pour une peinture grandeur nature, qui est quand même très souvent le cas de la peinture de la contre-réforme, pas nécessairement, mais c'est quand même souvent le cas, cette peinture, ces grands tableaux d'hôtel, le tableau d'hôtel unique, plutôt que le triptyque, enfin même si Rubens au début de sa carrière réalise encore des triptyques, mais petit à petit on va vers le grand tableau d'hôtel unique, vous voyez, ces personnages, grandeur, plus grandeur de la nature.
Enfin dans son cas en tout cas.
Tout à fait. Donc bien entendu, Rubens lui-même faisait très souvent appel à des collaborateurs, notamment pour Asnelers, pour représenter les fruits ou les légumes. Forcément, vous avez tout un mouvement qui se met en marche, en quelque sorte, et qui influence, bien entendu, toutes les activités artistiques du moment. Il faudra un certain temps avant que cette peinture prenne, donc cette peinture à la fois de paysage et de nature morte, prenne cette ampleur, prenne cet aspect monumentale.
Qui est très différente de la peinture de Peter Bruegel.
Ah, tout à fait. Et même aussi de Jan Brueghel. Bon, Jan Brueghel a peint certains paysages au grand format, mais malgré tout, la peinture de D'Artois, la peinture de Fête, la peinture... Mais Snijders, par contre, qui était lui un contemporain de Rubens, se met déjà à peindre des natures mortes beaucoup plus monumentales, beaucoup plus opulentes. Bon, c'est, voilà, c'est à chacun son temps, en quelque sorte.
Donc, ça mérite bien le nom de baroque. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Sabine van Sprang, conservatrice de la peinture flamande des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, qui est la commissaire de l'exposition Rubens, Van Dyck, Jordaens et d'autres peintres du baroque flamand actuellement au Musée Marmottan Monet à Paris. Cette exposition regroupe donc tous les grands genres de la peinture flamande. Alors, merci de nous guider dans les différentes salles de cette exposition, Madame van Sprang. Donc, on a déjà évoqué tout à l'heure la peinture d'histoire, les natures mortes, les scènes de genre ou encore le paysage dans lequel les artistes du Nord étaient vraiment maîtres. On va commencer par la première salle, si vous voulez bien.
Oui, alors donc, nous avons subdivisé la salle véritablement dans les différents genres, hein, partant de la peinture d'histoire, en passant par le portrait, la peinture de genre et ensuite le paysage et les natures mortes.
Et c'est très clair.
Et c'est très clair. Bien entendu, il faut bien se rendre compte que la plupart de ces tableaux ont été peints alors que... je dirais, la classification en genre, de façon précise, telle que l'Académie française allait préconiser, n'était pas encore véritablement, je dirais, d'actualité. Mais les choses naissent toujours, je dirais, dans un contexte, et bien entendu, déjà à l'époque, Van Mander, dont je vous parlais tout à l'heure, considérait que la peinture d'histoire était le grand genre, le genre le plus élevé, puisque pour pouvoir être peintre d'histoire, il fallait pouvoir tout peindre. Et c'est pourquoi, dans cette exposition, nous avons également sélectionné un tableau auquel je tiens beaucoup, qui sont en fait les Miracles de Saint-Benoît de Rubens.
Ah, mais c'est un chef-d'œuvre, oui.
Et qui est un tableau très particulier parce que c'est un tableau inachevé. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer ce tableau-là parce qu'il permet véritablement de montrer la virtuosité de Rubens. Donc on voit vraiment comment Rubens élaborait ces tableaux, partant de l'ébauche, hein, l'ébauche peinte, c'est-à-dire... au fond, la silhouette peinte des figures, silhouette remplie après avec des couleurs relativement pâles, vous voyez, qui permettaient simplement de donner le ton de fond, et à partir desquelles, à partir de ces couleurs, à partir desquelles, Rubens petit à petit élaborait son modelé. Et c'est une chose qu'on voit parfaitement dans le tableau. On voit très bien comment petit à petit il donne corps et donc donne vie à ces figures. Et ça, je trouve... tout à fait exceptionnel.
Oui, parce qu'il y a une partie du tableau qui est extrêmement bien travaillée, et puis il y a toute une autre partie dans le
voilà.
ciel qui visiblement
et à droite
reste
aussi,
inachevée.
Parce que c'est un tableau en fait qu'il a agrandi. Et ça, c'est une chose aussi
oui,
qu'il faisait très souvent. C'est d'ailleurs un tableau dont on soupçonne qu'il est resté dans l'atelier jusqu'à son décès. Et en soi, c'est pas surprenant parce que effectivement, il est connu que Rubens retravaillait très souvent ses compositions, rajoutant d'ailleurs, il y a certains paysages épouvantables qui sont peints sur bois et qui ont été agrandis avec, j'oserais presque dire, des planchettes, vous voyez. Donc contre toutes les règles de la corporation, enfin voilà, parce que c'était un peintre et c'est ça aussi le génie de Rubens. C'est un peintre qui se renouvelle sans cesse. Qui retravaille sans cesse. Et c'est une de ses particularités par rapport à certains autres peintres qui étaient des grands peintres, mais qui n'avaient peut-être pas, je dirais, cette force créatrice continue. Voilà.
Et quelle est l'histoire de ce tableau? Je veux dire, l'histoire qu'il veut raconter, le Saint-Benoît.
Ah oui, alors c'est Saint-Benoît, bon, bien sûr, c'est l'histoire d'un miracle.
Qui est supposé faire des miracles, voilà.
Voilà, donc au fond, c'est le roi des Goths, hein, Totila, qui envoie son serviteur auprès de Saint-Benoît. Ce serviteur est censé se faire passer pour le roi des Goths en question,
imposteur.
Un imposteur, Et Saint-Benoît, bien entendu, au premier regard, se rend compte qu'il s'agit d'un imposteur. Et bien sûr, cette découverte immédiate, en quelque sorte, Saint-Benoît la doit à l'intercession divine. Et vous voyez effectivement dans les cieux le Christ qui regarde Saint-Benoît, qui lui insuffle cette intuition que face à lui se trouve un serviteur et non pas le roi d'ego. Et d'ailleurs, le serviteur est extrêmement surpris, on le voit, hein, c'est ce mouvement baroque aussi, cette foule. Vous voyez ce serviteur qui fait un geste ahuri, ouais. En quelque sorte, puisque tout de suite, Saint-Benoît se rend compte qu'il n'est pas la bonne personne. Ce qui est assez merveilleux aussi, c'est bien sûr ce mouvement dans ce tableau, hein, une espèce de mouvement centrifuge autour des protagonistes, et qui fait que d'emblée, lorsque vous regardez ce tableau, vous comprenez que la scène véritable, elle se trouve au milieu et autour. Vous avez les personnages au premier plan, vous avez également les lépreux que Saint-Benoît aurait guéri. Hein, donc il y a d'autres scènes qui se déroulent autour, si vous voulez.
Une source lumineuse avec probablement un malade qu'on apporte.
Voilà, absolument. Alors bien entendu, vous avez raison de souligner, il y a bien sûr le clair-obscur, que Rubens importe d'Italie aussi, qu'il a vu en Italie. N'oublions pas que Rubens était en Italie tout au début du XVIIe siècle, alors que le Caravage installait ses premiers, installait ses premières œuvres dans les églises romaines. Donc, bien entendu, il a aussi été influencé par cela. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que à côté de ça, parce que effectivement, je vous disais tout à l'heure que la peinture flamande du XVIIe était dominée par la personnalité de Rubens, c'est absolument incontestable. Mais il est tout de même intéressant de signaler que, à côté de, je dirais, ce grand mouvement baroque flamand, se développe notamment dans la principauté de Liège, qui est en fait une entité politique autonome par rapport au, enfin, en tout cas, séparée, c'était pas autonome, mais disons, séparée des Pays-Bas, mais enclavée dans les Pays-Bas. Eh bien, là, à Liège, naît un autre courant, dont nous avons ici deux artistes qui ont marqué ce courant, d'une part Berthelet Flemal et d'autre part Gérard Delérès, qui lui partira d'ailleurs ensuite aux Pays-Bas septentrionaux. Et ce courant est marqué par le classicisme italo-français.
Oui, il y avait un échange très intense entre les courants artistiques, entre d'abord les Flamands qui ont beaucoup influencé les Français, et ensuite c'est les peintres classiques français, comme vous dites, comme Nicolas Poussin, qui ont,
oui,
de retour influencé
les peintres flamands. Et d'ailleurs, il y a un autre tableau aussi, puisque nous parlons de Poussin dans l'exposition, qui est une sorte de curiosité, je veux dire. C'est un tableau que nous avons acquis il n'y a pas longtemps, 2008, donc c'est vraiment très récent. C'est donc le Silène ivre de Carl Philipp Spiering. Et nous avons acquis ce tableau parce que, précisément, je crois qu'il est important, lorsque on veut expliquer la peinture flamande au public, de nuancer aussi l'image. Donc, même si, effectivement, Rubens est, je répète, la figure marquante du XVIIe, il est intéressant de montrer qu'il y a quand même d'autres courants qui existent par ailleurs. Je crois que c'est très important, surtout dans la culture actuelle, de ne pas s'enfermer dans des clichés trop rapidement.
Et en quoi il est si différent?
Alors, lui, il est très très différent. Donc, c'était un peintre bruxellois, qui a d'ailleurs eu le même maître que Philippe de Champaigne. Vous savez que Philippe de Champaigne est né à Bruxelles également. Et Spiering est parti très tôt en Italie, où il s'est installé à Rome, chez François Duquesnoy. Et François Duquesnoy est un très grand sculpteur bruxellois également, qui auparavant avait vécu avec Poussin. Et c'est sans doute par le biais de Duquesnoy que Spiering fait la rencontre de Poussin. Donc c'est quand même intéressant, parce que c'est quand même par le biais d'un compagnon bruxellois lui aussi. Donc vous voyez, il y a quand même ce courant classique qui se développe en quelque sorte à Rome. Et Spiering sera l'un des tout premiers émules de Poussin. Mais ce qui est assez drôle, c'est que autant il émule, je dirais, le vocabulaire de Nicolas Poussin, autant il le réinterprète à la façon flamande, malgré tout. Donc vous avez une nymphe, par exemple, à gauche de Silène, Anglaé, magnifique nymphe, qui est vêtue d'un drapé bleu, de ce bleu intense, typique des tableaux de Poussin également. Mais en même temps, à la fois le Silène et à la fois les nombreux putti qui entourent les protagonistes ont des corps joufflus tout à fait à la flamande. Donc ça, c'est assez drôle. C'est ce mélange, si vous voulez, cette rencontre entre la peinture flamande et la peinture de Nicolas Poussin. Les corps de Nicolas Poussin ne sont pas aussi joufflus, ne sont pas aussi dodus, n'ont pas ces carnations laiteuses qui sont... C'est beaucoup plus
classique.
Absolument, absolument. Donc ce mélange est assez particulier et nous sommes très heureux d'avoir pu acquérir ce tableau parce que Spiering nous a laissé jusqu'à présent une dizaine d'œuvres. Enfin, en tout cas, on ne connaît qu'une dizaine d'œuvres de cet artiste, donc c'est un artiste relativement rare.
Et puis, il y a dans cette salle un autre tableau qui est très impressionnant, c'est une Cornelis...
Schut, oui.
Schut.
Schut.
Schut. On dit.
Schut, oui, c'est compliqué.
Aux Pays-Bas.
Absolument. Alors, Cornelis Schut est un peintre qui a travaillé avec Rubens. Notamment, vous savez qu'aux Pays-Bas, vous aviez ce qu'on appelait les joyeuses entrées, qui étaient au fond les entrées royales, en quelque sorte. Et en 1634, après la mort donc d'Isabelle, donc je vous avais parlé d'Albert et Isabelle, hein, qui avaient été ses souverains du début du XVIIe siècle, donc Albert meurt en 1621, Isabelle meurt en 1633, et donc peu après arrive en 1635 le cardinal infant Ferdinand pour gouverner les Pays-Bas au nom du roi d'Espagne, puisqu'entre-temps les Pays-Bas sont retournés à la couronne d'Espagne. Et il fait son entrée à Anvers, et donc, comme d'ailleurs partout, hein, il a été reçu avec des arcs de triomphe, enfin avec ses décors éphémères, qui avaient été conçus par Rubens, mais pas forcément exécutés par lui. En fait, tous les grands peintres de la capitale avaient été réquisitionnés pour, évidemment, l'aider à peindre ces différents modèles,
oui,
qu'il avait fait, bon, à échelle, parce que bien sûr, il faut travailler relativement vite, enfin c'est un travail énorme, et donc, ben voilà, la coutume voulait, bien entendu, que les plupart des artistes de la ville étaient venaient contribuer,
de,
si vous voulez,
atelier,
voilà,
beaucoup
et
de
donc,
collaborateurs.
Cornelis Schut a participé, comme Jordaens, comme de nombreux autres peintres, à l'exécution des décors pour cette entrée du cardinal infant Ferdinand. Mais Cornelis Schut partira lui aussi en Italie, sera lui aussi influencé par la peinture italienne, notamment par le Guerchin, par Luca Giordano, enfin par toute la grande peinture de l'époque. Et lui aussi, au fond, opérera en quelque sorte une synthèse entre l'apport de Rubens et l'apport de la peinture italienne qu'il a vu en Italie. Et ce tableau, donc Suzanne Evier, en est la parfaite expression. Là aussi, vous retrouvez une femme au corps joufflu et laiteux, entouré bien sûr par deux vieillards. Hein. Donc on connaît l'histoire de ces deux juges qui épient la pauvre Suzanne et qui ne peut rien dire parce que voilà, il l'accuserait, elle, bien sûr, de s'être mal comportée. Hein. Et puis bon, heureusement, Daniel intervient. Enfin bon, donc finalement, tout finit. On finit par démasquer les mauvais juges. Hein. Donc c'est ça, la petite histoire. Mais très vite, ce type de scène a servi de prétexte pour représenter de jolies femmes à moitié dévêtues, comme c'est le cas ici. Mais une fois de plus, ce qui caractérise ce dessin, c'est non seulement des personnages monumentaux, mais également un sens du mouvement que l'on perçoit déjà chez Rubens, et qui ici, je dirais, se développe plus encore avec ce contraste absolument merveilleux entre le drapé rouge de l'un des juges qui s'envole à l'arrière-plan, auquel répond le drapé blanc et virginal, bien entendu, de Suzanne au premier plan. L'exposition comprend tout en début de parcours un tableau de David Teniers le Jeune, qui à partir de 1650 sera au service de Léopold Guillaume et qui représente le gouverneur en question dans sa galerie de peinture, et où effectivement vous reconnaissez, d'ailleurs c'est inscrit, hein, vous reconnaissez des tableaux du Titien, des tableaux de Véronèse, des tableaux de Raphaël aussi, hein, puisque encore une fois, il n'avait pas que de la peinture vénitienne, mais aussi des tableaux de Giorgione, etc.
Les trois âges de Giorgione,
voilà.
Oui.
Et ce sont des tableaux, évidemment, là je parle donc de ces cabinets de peinture qui représentent ces tableaux, c'est des tableaux évidemment au charme particulier. Et encore une fois, la plupart des tableaux qui sont représentés dans le cabinet de peinture de David Teniers sont encore et toujours aujourd'hui au musée de Vienne. Donc vous pouvez encore et toujours les admirer aujourd'hui à Vienne. C'était quelque chose de très particulier parce que ces cabinets de peinture sont une spécialité anversoise. Enfin, en tout cas, au départ, elles l'étaient. Ce sont les Franken, Franz Franken et Hieronymus Franken qui ont mis ce type d'œuvre à la mode. Au départ, ces cabinets ne représentaient d'ailleurs pas nécessairement des collections existantes. Très souvent, c'était des cabinets qui étaient produits, je dirais, en l'honneur de la peinture anversoise, en l'honneur de la peinture tout court, mais de la peinture anversoise en particulier, car très souvent, les tableaux représentés dans ces cabinets sont des tableaux de peintres exclusivement anversois, du XVIIe ou même d'avant. Par exemple, vous aviez un peintre du XVIe qui s'appelle Quinton Metzès, qui était extrêmement apprécié encore au début du XVIIe et qui est très souvent représenté dans ces tableaux. Donc, encore une fois, cette peinture, ce type de cabinet de peinture au départ, avait pour vocation première de faire un peu la publicité, au fond, hein, de la peinture anversoise, alors que Léopold Guillaume reprend cette tradition pour en faire autre chose. Il reprend ces traditions pour, au fond, constituer une espèce de catalogue, inventaire de ses propres œuvres. Maintenant, il faut quand même savoir que Léopold Guillaume donc collectionnait non seulement la peinture italienne, mais également flamande, allemande, enfin, il avait une collection considérable d'œuvres de provenance diverses, mais ses cabinets de peinture représentent essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement des tableaux italiens. D'ailleurs, le tableau de Cornelis Schut, dont on parlait tout à l'heure, est représenté, donc ça c'est un tableau flamand, est représenté dans un de ses cabinets, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on pense que ce tableau a fait partie de la collection de Léopold Guillaume, parce qu'il est représenté dans un des cabinets de Léopold Guillaume, où donc n'est pas représenté que de la peinture italienne. Mais c'est plutôt une exception. Très souvent, ce sont les tableaux italiens qui sont mis à l'honneur.
Il est aujourd'hui visible à Bruxelles et pas à Vienne. Donc, il a été récupéré.
Donc, il a été récupéré. Mais c'était pour nous un petit plus. Je dirais que, bon, on trouvait ce tableau absolument magnifique. Donc, c'est un tableau de très, très grande qualité. Donc, c'est bien sûr la première raison pour laquelle nous avons voulu acquérir cette œuvre. Mais le fait, effectivement, qu'il ait probablement fait partie de la collection de Léopold Guillaume à Bruxelles, a constitué pour nous une raison supplémentaire pour l'acquérir, bien entendu.
Bien sûr, oui, oui. On passe ensuite au paysage, ou d'abord aux scènes de genre, je crois.
Oui, donc on passe quand même par le portrait. Nous avons deux très beaux portraits, oui, quand même, de Van Dyck. Donc, je vous ai parlé de celui de...
J'avais réservé ça pour les chefs-d'œuvre à mentionner à la fin.
Ah, voilà. Mais donc, disons-le au passage. Hein, oui. Donc, vous avez les portraits de Van Dyck, ces deux portraits de deux membres d'une et même famille, qui est la famille de Lafaille, qui est une famille très importante, au XVIIe. Et donc vous avez le portrait d'Alexandre de Lafaille, et surtout le portrait de Jean-Charles de Lafaille, qui était un jésuite. Vous savez que les jésuites ont aussi joué un rôle fondamental dans la contre-réforme. Et c'était au fond un ordre qui avait été constitué, entre autres, pour pouvoir faire face aux théologiens de la réforme. Donc c'était un ordre relativement intellectuel. Et Jean-Charles de Lafaille était un grand mathématicien, géographe, tant et si bien d'ailleurs qu'il sera appelé à la cour d'Espagne. Et ce tableau, qui date très probablement de 1629, aurait été réalisé avant son départ définitif des Pays-Bas pour l'Espagne, à la demande de sa famille. Et en effet, ce tableau a ceci de particulier, c'est que non seulement il est magnifique dans son exécution, vous voyez notamment aussi les instruments de son savoir, je dirais, qui le flanquent et qui sont représentés avec une finesse tout à fait extraordinaire, mais si vous vous concentrez sur le visage de Jean-Charles, vous verrez qu'il a une expression absolument mélancolique, très particulière, avec des yeux qui vous fixent avec une certaine tristesse, mais quand même déjà aussi un regard qui porte au loin, et qui donc résume parfaitement ce personnage, oui, mais aussi la situation, je dirais, ce personnage qui va quitter les Pays-Bas, qui à la fois va occuper un poste extrêmement important dont il est conscient, mais il y a cette nostalgie quand même de quitter la famille. Je trouve que c'est quelque chose qui se perçoit dans ce regard, et qui est absolument extraordinaire.
Un des plus beaux portraits qui existent.
Je crois. Ça fait partie des tout beaux portraits de Van Dyck. Hein. Bon, il en a fait beaucoup qui sont extraordinaires, mais disons que celui-ci appartient incontestablement à l'un de ses chefs-d'œuvre. Vous avez ce visage et ses mains qui ressortent d'autant plus, bien sûr, hein, en contraste entre ses chairs lumineuses et ce drapé, enfin cet habit sombre, fait qu'on est d'autant plus happé à la fois par le regard et à la fois par la main qui tient un compas et qui est entourée, une fois de plus, de ces objets qui sont admirablement bien rendus. Ouais, donc oui, c'est vraiment un très très beau tableau.
Une sérénité et une intensité en même temps qui émane de ce portrait extraordinaire.
Voilà, voilà.
Ce portrait était, si je comprends bien, dans la famille de Lafaille,
voilà,
qui ont fait don au musée royaux ultérieurement de leur collection.
Voilà. Alors,
y compris ce tableau.
Donc,
et puis l'autre tableau qui est
très beau et qui en fait nous est parvenu par un autre biais. Donc, au fond, en 1941, vous aviez le comte de Lafaille qui nous a fait une donation très importante d'un ensemble de tableaux, dont le Jean-Charles de Lafaille et dont deux autres d'ailleurs portraits de Van Dyck qui représentent un homme et une femme âgée. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on a cru que c'était une paire, mais en fait, ce n'est pas le cas. Mais par ailleurs, par un autre biais, par la famille Guéland, nous avions déjà eu l'occasion d'acquérir l'Alexandre de Lafaille. Donc c'est assez intéressant de voir que ces deux membres d'une même famille, enfin bon, c'était des cousins, mais enfin, se retrouvent à nouveau réunis par, au fond, les hasards de l'histoire. C'est toujours touchant aussi de se rendre compte de ça,
oui,
bien entendu.
Oui, voilà. Oui.
Et puis nous avons également ce portrait de femme âgée de Jordaens. Bon là, il s'agit peut-être d'une œuvre d'atelier, parce qu'il en existe deux versions. Mais je tenais à le montrer à Paris une fois plus parce que je trouve important de rappeler au public français que Jordaens n'est pas qu'un peintre de genre, parce que en France comme en Belgique d'ailleurs, Qui dit Jordaens pense automatiquement à ces fêtes paillardes, hein, donc notamment le roi Bois, dont on a aussi amené un exemplaire magnifique, bien sûr, on pouvait
oui,
pas
ça ne
pas,
pas manquer.
Voilà, qui est cette fête en fond de l'épiphanie, qui, à l'époque comme aujourd'hui, hein, c'est une fête qu'on fête encore de la même manière aujourd'hui. Vous avez cette galette des rois, qui d'ailleurs trône au premier plan du tableau dans la section de la scène de genre. Et donc voilà, vous avez la galette des rois avec une fève, celui qui tire la fève devient roi, et c'est exactement ce que cette scène représente. Vous voyez le roi avec sa couronne de papier, qui a lui-même évidemment désigné une reine, qui est une reine avec une espèce de diadème, je dirais une reine qui ne se tient pas trop bien, puisqu'elle est en même temps en train d'essuyer le derrière de son enfant au premier plan. Enfin bon, c'est évidemment une scène tout... Alors là, c'est l'opulence en toute sa en toute sa splendeur. En plus, il semblerait que le roi ait emprunté ses traits à Adam Van Noort, qui était le maître de Jordaens. Il se pourrait même que Jordaens lui-même se soit représenté au premier plan à droite, en train de vomir, hein, donc vous voyez, pas vraiment...
Autodérision.
C'est une grande autodérision, et pourtant, ce tableau, malgré tout, dénonce, parce que ce type de tableau dénonçait aussi l'excès des parents, qui donnaient au fond le mauvais exemple aux enfants, puisque très souvent dans ce type de tableau, il y a de nombreux enfants qui, bien entendu, imitent ce que les parents font. Donc, il y a une critique.
Oui, on les trouve souvent sous la table et
voilà.
On se demande dans quel état.
Il y a une critique, mais ce sont quand même des tableaux dans ce qu'on appelait à l'époque le mode comique. Hein. Donc là, on emprunte au fond le vocabulaire à l'art dramatique. Hein. Donc vous avez la tragédie, vous avez la comédie. Eh bien, les tableaux de Jean ressortent de la comédie. Donc ça, c'est très très clair. Une comédie qui, pour autant, n'était pas forcément gratuite. Donc c'est toute l'ambiguïté de la scène de genre, en fait. Hein. Donc... elle est moralisatrice, mais la réduire à sa dimension moralisatrice serait réducteur, précisément. Il y a aussi la volonté de faire rire, de faire sourire, de clairement s'inscrire dans ce décorum. Vous savez, le décorum, c'est très important au XVIIe, donc dans la scène comique, dans la scène de genre, et par essence, certainement ce type de scène-là, comique. Et c'est précisément ce que Jordaens nous montre, en fait.
Mais ce n'était pas tout simplement réaliste de l'époque ?
Oh, je crois que c'est très très exagéré.
Ah,
je
oui?
crois que c'est très bon. Bien sûr, tout le monde, on a tous, je crois, eu dans notre vie. Et enfin, on a tous connu des soirées, on dira, un peu arrosées, n'est-ce pas ? Donc voilà, mais...
mais c'est quand même typique c'est... pour la peinture flamande.
Mais
on
parce que je crois...
Souvent,
oui, alors
c'est... C'est genre un peu... paillarde, comme...
Voilà, mais justement, je crois que l'erreur est d'avoir voulu y voir une scène réaliste. Hein. Bon, bien sûr, les éléments, alors c'est toujours ça, les éléments individuels, vous voyez, donc la galette est représentée de façon extrêmement réaliste, et je suis absolument certaine que les galettes au XVIIe étaient effectivement telles que le peintre nous la représente, donc elle est, ce sont des scènes qui sont réalistes dans leurs détails, les objets qui entourent les personnages sont réalistes, les costumes des personnages sont réalistes, jusqu'aux traits des personnages, puisque cela représente dans certains cas des portraits, mais la scène n'est pas réaliste. Le peintre n'a pas croqué une scène un soir de, je sais pas moi, de ripaille et de beuverie pour la reproduire ensuite dans un tableau. Non, c'est bien entendu que non, encore une fois, c'est une scène imaginée, c'est une scène qui ressort du répertoire comique et qui a néanmoins pour objectif de dénoncer les excès. Donc voilà, tout
ouais.
en jouant sur le jeu, parce qu'en plus vous avez une devise qui couronne la scène, qui dit, c'est un jeu de mots si vous voulez, qui dit en clair, enfin en résumé, qu'il est quand même agréable de pouvoir... bien boire et bien manger lorsque ça n'accoûte rien. Ça veut
oui,
dire
parce que c'est le roi qui doit tout
c'est
prendre.
En plus, voilà,
en
exactement.
Charge.
Donc voilà, ça se joue sur plusieurs niveaux, mais
oui.
Mais ce n'est pas. Ce
il
n'est
y a
pas...
des visages d'une expressivité.
Ah, absolument,
vraiment,
absolument. Mais ça, certains visages ont certainement fait l'objet, je dirais, de croquis préalables pris sur le vif. Même si, bon, par exemple, l'autoportrait de Jordaens, on peut, bon, on connaît plusieurs portraits de lui qu'il a bien entendu fait sur le vif, mais sans doute pas en train de vomir. Donc là, il a réinterprété son propre visage, en quelque sorte, hein. Donc, c'est clair.
Voilà pour les scènes de genre. Et puis, on passe au paysage.
Et puis, on passe au paysage. Alors, les peintres flamands, déjà au XVIe siècle, étaient réputés pour leur paysage. Non seulement en peinture, mais même en tapisserie. Hein. Vous savez que c'était les peintres qui concevaient les modèles de tapisserie. Et donc les Flamands avaient déjà au XVIe siècle la réputation d'être d'excellents paysagistes, et au XVIIe cela continue. Le premier tableau que le visiteur rencontre dans l'exposition, s'il suit le parcours qu'on lui propose, C'est un tableau de Paul Bril, qui est un peintre qui lui aussi, alors ça c'est intéressant, c'est un peintre qui lui aussi s'installe à Rome, et qui ne sera pas influencé par la peinture classique française, mais influencera la peinture classique française, notamment Poussin et Lorrain. Donc les oui, paysages de Lorrain certainement sont
une luminosité qui fait vraiment penser à
absolument et qui sont
gelée, oui.
Absolument et qui sont difficilement imaginables sans Bril et en particulier ces représentations tardives de porcs dont nous présentons un exemple au musée Marmottan-Monet et c'est bien pour ça aussi que même si c'est un tableau en fait qui date du tout début du XVIIe siècle, nous avons quand même décidé de l'inclure dans notre sélection. Donc Bril a influencé Poussin et Lorrain essentiellement au travers de ces marines tardives dont nous montrons un exemple à Marmottan-Monet. Nous l'avons inclus pour cette raison-là d'ailleurs dans la sélection des tableaux alors qu'en fait il s'agit d'un tableau du tout début du XVIIe siècle, donc on est déjà au XVIIe, mais tout début alors que la plupart des œuvres que nous avons sélectionnées pour Marmottan datent plutôt des années 1630-1640. Mais j'ai tenu à ce que ce porc figure également dans la sélection, précisément parce que pour le public français, je crois qu'il était intéressant de montrer ce type d'œuvre dans lesquelles, en fait, Bril lui-même opère une synthèse entre la tradition flamande, encore une fois, je dirais le sens du détail, le sens de la lumière, le sens des couleurs, et la peinture classicisante des Caraches, donc la peinture italienne. Et cette synthèse va, je dirais, influencé très très fort, encore une fois, Poussin et Lorrain, qui eux aussi représenteront ces tableaux, ces paysages très classicisants, très sereins, une sérénité qui se dégage de ces tableaux tout à fait extraordinaires.
Oui, c'est presque surréel.
Bien sûr, et ça l'est d'une certaine manière, puisque ce port représente une caravelle qui accoste dans un tout petit port de rocher, ce qui bien sûr n'est pas du tout réaliste, mais c'est très très beau de voir le contraste entre ce tout premier plan qui est traité à contre-jour et les éléments qui petit à petit se déploient derrière avec ce que nous appelons cette perspective atmosphérique qui crée au fond la profondeur par dégradé de couleurs, comme on le voit très très bien ici, mais qui, chez Bril, est conjugué avec une perspective déjà plus géométrique en quelque sorte, avec un point de fuite qui est le soleil déclinant. Et donc cette conjugaison des deux offre un tableau d'une profondeur tout à fait extraordinaire, mais aussi d'une profondeur très sereine, parce que voilà, c'est une perspective, encore une fois, qui se fait par dégradé, donc tout doucement, en quelque sorte.
Oui, on va vers l'infini.
On va vers l'infini.
Oui, oui. Un tableau encore magnifique, à compter parmi les chefs-d'œuvre.
Absolument. Après le paysage de Paul Bril, le public pourra admirer un tableau de Lucas van Uden. Alors Lucas van Uden est un peintre qui, on a cru pendant très longtemps qu'il était un élève de Rubens, ce qui n'est pas le cas. Mais il semblerait quand même que van Uden ait travaillé d'une certaine manière pour Rubens, dans la mesure où il a reproduit et s'est inspiré de paysages de Rubens. Mais, si vous voulez, alors quand il les reproduisait, c'était sur plus petit format, et quand il s'en inspirait, il rajoutait des petits détails. Enfin bon, disons qu'il n'y a plus chez Van Uden, contrairement à Rubens, ce souffle épique. Les paysages de Rubens sont quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a une espèce de synthèse, là aussi, de tout ce qui précède, mais qui va vers quelque chose de beaucoup plus. Oui, encore une fois, ce sont des paysages avec un souffle épique qu'on ne retrouve pas du tout chez Van Uden. Van Uden s'attache trop aux détails flamands. Mais néanmoins, ils sont rubéniens par le traitement de la couleur, qui est cette couleur extrêmement chaude, comme vous pouvez le voir ici. Et c'était un peintre qui, à l'époque, avait un succès absolument extraordinaire. Il a une production énorme. D'ailleurs, on attend encore et toujours le catalogue raisonné, qui, à mon avis, ne doit pas être simple à faire. Mais c'est un peintre tout à fait typique et qui ne pouvait pas manquer dans une sélection comme celle que je propose au musée Marmottan.
Il y a un autre paysage qui est superbe, Franz de Montpère.
Alors Franz de Montpère, alors effectivement, il y a trois paysages que j'ai accrochés face au tableau de genre, qui sont donc le tableau de Montpère, qui est un paysage de Teniers, et un paysage de Siebrecht. Et je les ai pendus face au tableau de genre parce que, au fond, c'est les paysages qui représentent quand même des scènes paysannes et qui donc, du coup, au fond, se situent entre le paysage au sens strict et la scène de genre. Hein. Et cela, bien sûr, c'est assez logique puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, nous ne sommes pas, à l'époque, les genres n'étaient pas classifiés comme ils le seront plus tard. Et encore une fois, la scène de genre, au fond, on a qualifié ces tableaux de scènes de genre bien après leur réalisation. Donc c'est pourquoi... De temps en temps, évidemment, on ne peut pas mettre de barrières strictes, et c'est heureux d'ailleurs, hein, entre ces différentes spécialités. Et Franz de Montpère représente une scène qui, a priori, paraît être une scène très joyeuse. Vous voyez une ronde hein, de
paysans,
qui dansent autour d'un arbre, et vous avez un personnage au perché, dont on se demande d'ailleurs un peu ce qu'il fait là. Donc tout ça paraît très joyeux. Là aussi, vous avez des tonalités claires. Le tableau dégage aussi une sérénité particulière par le traitement même du paysage, par grandes plages de couleurs, hein, assez, je dirais, fluides.
Le ciel mouvementé quand même.
Le ciel est mouvementé, c'est vrai, mais malgré tout, c'est un tableau qui s'exprime essentiellement par la couleur ocre, la couleur verte et la couleur bleue, qui sont d'ailleurs les trois tons traditionnels de la perspective atmosphérique. Et donc, encore une fois, a priori, tout ça paraît très joyeux. Hein. On peut imaginer que nous sommes en fin d'après-midi et que vous avez ces paysans qui s'amusent. Et puis, un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a un gibet. Donc ça, c'est beaucoup moins sympathique, par contre. Donc, vous voyez un pendu. Et ça aussi, ben, encore une fois, c'est très propre à la peinture flamande. C'est que vous avez une scène qui pourrait paraître réaliste. Et puis, tout d'un coup, il y a un élément... Voilà, qui nous rappelle que ces tableaux représentent plus que ça, que ces tableaux ont également une signification au-delà de la représentation d'une pseudo-réalité. Elles ont également une signification morale, et ici on peut, bien sûr, il n'y a pas de description précise du tableau de l'époque qui permet d'interpréter ce tableau de façon univoque, mais on peut bien sûr imaginer que c'est une sorte de rappel que l'existence est éphémère, que l'existence peut être dangereuse, vous voyez, et il y a évidemment... Ce message paraît d'autant plus significatif que le gibet contraste, je dirais, violemment avec cette ronde de danseurs, bien sûr.
On peut toujours admirer, par exemple, la manière dont sont peints les arbres. C'est une splendeur absolue.
Absolument. Vous avez pratiquement chaque feuille qui se détache de l'autre.
Oui, hein.
Il y a cette précision qui faisait la fortune des Flamands. Donc, je veux dire, ils en avaient véritablement la réputation. Et donc, ils avaient tout intérêt, au fond, à continuer à peindre de cette manière.
Et on arrive donc aux natures mortes, la dernière salle.
C'est-à-dire que c'est en fait, c'est la même salle. Hein. Donc vous avez cette grande dernière salle,
oui, disons la
avec d'un côté
partie, oui.
Voilà le paysage et de l'autre côté la nature morte. Je trouvais ça intéressant aussi de confronter ces deux genres qui sont quand même, je dirais, de nature plus décorative, même si, comme je viens de l'expliquer, ces tableaux ne se résument pas, bien sûr, à une dimension décorative. Hein. Elles avaient souvent une connotation également moralisatrice ou autre. Alors effectivement, là, on se retrouve face à la nature morte au perroquet de Adriaan van Utrecht, qui est un peintre influencé par Snijders, qui était donc ce peintre de nature morte du début du XVIIe, qui a véritablement révolutionné le genre, en optant pour des œuvres beaucoup plus monumentales. Hein, il représentait également très souvent des scènes de cuisine, vous voyez, avec...
Des melons, des huîtres, des
voilà,
citrons.
Voilà, ou des volailles.
Des volailles, oui,
aussi,
des volailles surtout, oui, c'est vrai.
Mais ici, nous avons donc une scène qui représentent plutôt alors vraiment des objets inanimés, hein, comme de la vaisselle, on voit tant de la vaisselle en vermeil que de la porcelaine, et remarquez au passage comme là aussi le peintre s'est attaché à rendre les matières, c'est d'ailleurs une de ses grandes spécialités hein, de Van Utrecht, c'est une fois de plus cette façon extraordinaire de se faire opposer le vermeil à la porcelaine, à l'oiseau aussi, le perroquet qu'on voit au plan médian avec ses couleurs vives et qui lui aussi contraste en quelque sorte avec les couleurs de la vaisselle au premier plan. Et puis à l'arrière-plan, on voit un personnage, une espèce de forgeron. Et là aussi, bien sûr, ce forgeron, qui est-il ? Serait-ce un alchimiste ? Vous savez que l'alchimie, ces personnages qui essayaient de trouver la pierre philosophale, étaient souvent des personnages représentés en peinture, aussi, je veux dire, pour représenter la fausse foi, puisque la vérité ne se révèle qu'au travers de l'écriture, c'est-à-dire au travers de la Bible, et non pas au travers de recherches alchimiques quelconques. Donc, est-ce que ce personnage représente un alchimiste ? Ou est-ce simplement l'allégorie du feu, le feu qui a été nécessaire pour réaliser précisément la vaisselle que l'on voit au premier plan ? Bon, là, l'interprétation n'est pas une fois de plus univoque et le tableau n'a pas encore révélé tous ses secrets. Mais il est absolument clair que ce tableau a une signification, voire plusieurs significations, parce que très souvent c'est le cas, il y a plusieurs significations attachées à un tableau. D'ordre moralisateur, ça c'est évident.
Et puis alors il y a un tableau absolument spectaculaire, vraiment impressionnant, le Jan Veit,
voilà, Veit, qui lui a travaillé dans l'atelier de Snijders. Bon, il n'est pas, c'est pas très bien s'il a été véritablement son élève au sens strict du terme, mais il a certainement travaillé avec lui. Et là aussi, bon, là c'est le combat entre un coq et un dindon. Et bon, c'est une richesse, je veux dire, c'est de la peinture à l'état pur pratiquement. Hein. Vous voyez que le peintre s'est véritablement attaché à rendre tous les détails dans le plumage. C'est aussi un tableau quand même d'une certaine violence, et cette violence s'exprime s'exprime autant par le mouvement que par la couleur en fait. Hein. C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que le contraste entre les couleurs contribue à la violence du tableau en quelque sorte. Bon, ça c'est le grand tableau d'apparat par excellence. Là on tombe vraiment dans les tableaux d'apparat, les tableaux dont on peut imaginer qu'ils étaient destinés à décorer une salle d'apparat d'un palais ou en tout cas d'une grande maison bourgeoise. Oui, c'est évident.
Qui serait venu dans vos collections par un...
Par le biais d'acquisition, car effectivement, beaucoup de tableaux... Bon, alors nous avons eu quelques donations extraordinaires et nous avons également eu, Dieu merci d'ailleurs, des conservateurs aguerris, on dira, et qui ont, au fil du temps, voilà, qui ont fait des acquisitions de ce type, donc extrêmement judicieuses. Et aujourd'hui, il faut bien dire, et c'est d'ailleurs cette histoire particulière qui l'explique, nous avons surtout, en fait, une collection d'art flamand extraordinaire, qui part du 15 au 18e siècle et qui couvre justement les différentes périodes dans, je dirais, dans ces différentes spécificités.
Oui, parce que je vois que vous avez aussi une très grande collection du 15e siècle.
Absolument, absolument. Et 16e. Et là, nous préparons d'ailleurs pour, ça c'est une collègue, pour l'automne 2013, une très belle exposition sur l'héritage de Rorich van der Weyden, ou Roger van der Weyden, ou Roger de la Pasture. Et donc, qui est ce peintre qui a été actif à Bruxelles et qui a créé une véritable école, enfin en tout cas a eu beaucoup beaucoup d'émules tout au long du 15e, même d'ailleurs jusqu'au début du 16e siècle. Et c'est exactement le sujet de la prochaine grande exposition à Bruxelles. Donc en effet, nous avons également une collection 15e extrêmement importante. Nous avons une très belle collection du 16e. Nous avons une très belle collection du 17e avec l'un des points forts qui sont les années... Je dirais le deuxième tiers du XVIIe siècle, dans les années 1630-1660, raison pour laquelle nous avons également sélectionné au sein du XVIIe siècle cette période-là pour être montrée au musée Marmottan-Monet.
Oui.
Mais le spearing, comme je vous le disais, est une acquisition récente.
Vous l'avez déniché ?
Oh, je ne sais pas si nous l'avons déniché, je veux dire, il était visible à Maastricht, hein, notamment,
oui.
Donc à la TFAF.
Oui, dans cette fameuse foire de Maastricht.
Voilà, absolument. Mais bien sûr, nous continuons, le Corneliscute est une acquisition relativement récente également. Donc, bien sûr, nous continuons à acquérir des œuvres.
C'est une aventure, c'est une exploration.
Voilà, c'est une vraie aventure. Et ce que nous essayons de faire, surtout, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de... Puisque nous ne pourrons plus, en fait, nous n'avons pas les moyens, il faut aussi être réaliste, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de combler nos lacunes, par exemple, en ce qui concerne l'art français, parce que ces lacunes sont trop importantes, ou l'art italien.
Oui, mais vous n'êtes pas forcément donc, un musée encyclopédique. Non. Vous vous concentrez sur l'art flamand.
Voilà. Et donc, du coup, nous avons décidé de nous concentrer sur l'art flamand, avec pour objectif premier d'offrir le panorama le plus vaste, mais aussi le plus nuancé de la peinture flamande. Je crois que là, c'est, je dirais, le côté didactique qui joue, mais qui est important. Et c'est pourquoi nous avons tenu à acheter le Philippe Spiering dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons aussi acquis l'Annonciation de Gérard Delérès, qui donc appartient à cette école liégeoise, qui est aussi une école différente de l'école de Rubens. Mais bien entendu, nous avons aussi acquis le Cornelis Schut, puisque, comme je le disais, ce tableau a probablement appartenu, enfin d'abord et avant tout, c'est un très beau tableau, mais en plus c'est un tableau qui a probablement appartenu à Léopold Guillaume, et donc ça nous paraissait être aussi un élément important, puisque ça permet également d'illustrer la richesse de non seulement de la peinture du passé, mais également de l'histoire picturale, en quelque sorte, oui, des Pays-Bas.
Comme quoi, on ne peut pas vraiment constituer une collection intéressante et aussi riche que comme dans votre musée, sans mécène.
Ah oui, oui, mais ça, alors ça, c'est un autre aspect. Donc, bien entendu, encore aujourd'hui, nous avons, heureusement d'ailleurs, des donations, voire des dations. Il y a une dation extrêmement importante qui s'est faite il y a quelques années au musée de Bruxelles, qui est la dation Géant-Croët, qui est une dation d'œuvres, on dira essentiellement de l'époque Art Nouveau, pour faire court, et qui bientôt d'ailleurs sera visible au public, parce que nous avons réaménagé tout un étage pour pouvoir montrer au mieux cette collection.
Ah oui, parce que vous avez aussi, voilà, une partie d'art moderne.
Nous avons aussi une partie d'art moderne, mais dont moi, personnellement, je ne m'occupe absolument pas. Mais donc, effectivement, on continue, Dieu merci, à pouvoir bénéficier de la générosité de collectionneurs et d'amateurs éclairés, on dira. Oui.
Nous, en tout cas, à Paris, on est très contents de pouvoir admirer une quarantaine de toiles, donc, de votre collection des peintres flamands, donc baroques, du XVIIe siècle. Et encore une fois, un grand merci, madame, d'être venue à notre micro, même pendant un week-end, parce
c'était
que vous
avec plaisir.
En visite à Paris. Et donc, ça nous a fait très, très plaisir d'avoir cet éclairage beaucoup plus approfondi sur ces toiles qu'on peut voir au musée Marmottan-Monet jusqu'en février 2013. Un grand merci, madame. Au revoir.
Au revoir.